Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès.
Bonjour Jean-Baptiste Bergès.
Bonjour Benjamin.
Grâce à vous et à votre grand témoin, nous allons évoquer aujourd'hui sur Vivre FM l'histoire, la vie de l'abbé Pierre.
Est-ce que vous vous souvenez de l'abbé Pierre ?
Oui,
comment l'oublier ?
C'est impossible.
Cette année, nous célébrons les 10 ans de sa mort. L'abbé Pierre, c'est quand même l'une des plus grandes figures humanistes du XXe siècle, fondateur de la communauté Emmaüs. Il a inscrit son nom dans l'histoire en ouvrant son cœur aux autres. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui encore, il est un symbole et un exemple pour la jeune génération. Mon invité est comédien, il s'appelle Nicolas Vitiello. Et pour rendre hommage justement à l'abbé Pierre, pour célébrer les 10 ans de sa mort, il a mis en place un spectacle qui retrace la vie de cet abbé. Et il endosse lui-même, Nicolas endosse le rôle de l'abbé avec la légendaire cape et le béret. On en parle maintenant sur Vivre FM.
Nicolas Vitiello avec nous jusqu'à 13h, c'est notre grand témoin sur Vivre FM.
Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Nicolas Vitiello, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être notre invité sur Vivre FM. Vous êtes le grand témoin pendant une heure. Je suis ravi de vous accueillir pour parler de vos nombreux projets, puisqu'on peut dire que 2007, quand même, ça s'annonce pas mal pour vous.
Bah oui, elle commence bien l'année. Je suis content sur les chapeaux de roue. Elle s'est terminée, 2016 s'est terminée au théâtre, et puis 2017 commence au théâtre.
Alors, un premier spectacle autour de l'abbé Pierre, puisque cette année, nous célébrons les 10 ans de sa mort. Vous serez dimanche à la communauté Emmaüs Neuilly-Plaisance pour interpréter ce spectacle que vous avez écrit après les attentats de Charlie Hebdo à l'époque, un spectacle où vous jouez le rôle de l'abbé Pierre pour retracer un petit peu l'histoire de ce grand homme. On va en parler tout au long de cette émission. Et puis vous êtes aussi à l'affiche d'une deuxième pièce. Une deuxième pièce, c'est tout à fait autre chose. Hein.
C'est le grand écart.
C'est le grand écart. Ça s'appelle Ma belle-mère et moi à la comédie Comartin. Et la première, c'est ce soir.
Ce soir, tout à fait.
Donc vous avez beaucoup, beaucoup de travail.
Oui, beaucoup de... Alors si j'inverse les mots, si je dis des phrases qui n'ont aucun sens, c'est normal, c'est que ma mémoire commence à surchauffer. Voilà.
Alors on va parler d'abord de ce spectacle autour de l'abbé Pierre, hein, puisque moi j'ai eu la chance de le voir en avant-première, j'ai trouvé ça assez incroyable. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'une personne comme vous, de votre âge, 34 ans, se soit intéressée à cet homme. C'est la preuve que 10 ans après sa mort, personne ne l'a oublié, ça reste un symbole. Pourquoi vous avez choisi de vous intéresser à lui?
En fait, après les attentats de Charlie Hebdo, j'ai été bouleversé comme la majorité des Français et des Européens. Et je me suis dit, bon voilà, c'est en train de tourner vinaigre. Et quel personnage, grand personnage de notre société française, a marqué son époque à une autre époque? Alors, c'était pas pour le même combat, évidemment. Mais comment a-t-il... Quel personnage emblématique a pu bouleverser l'image de la France, a pu réussir à embarquer avec lui la majorité des Français dans son combat? Et très vite, l'abbé Pierre m'est apparu... le personnage idéal. J'ai commencé à fouiller dans sa vie parce que pour moi, comme la majorité des gens, je pensais que c'était un petit curé qui s'occupait des pauvres petites personnes, des clochards, des SDF, etc. Et je me suis rendu compte qu'il avait une vie extraordinairement riche. Il a été résistant, il a été député, il s'est battu contre les Allemands, il a été... Il a vécu à peu près 100 vies en une vie, et surtout, ce que j'ai découvert, et qui a du coup amené de l'eau à mon moulin, c'est qu'il avait prédit tous ces attentats.
Donc vous faites un lien entre l'abbé Pierre, entre ce fameux appel 54 où il a justement demandé aux Français de l'aide, et ça a eu une répercussion incroyable après, puisque justement cette communauté Emmaüs a pu se développer. Vous faites un lien entre l'abbé Pierre en 54 et ce qui nous est arrivé en 2015.
Et c'est le combat d'Emmaüs aujourd'hui. C'est-à-dire que l'abbé Pierre, pour lui, combattre la misère n'était pas un but en soi. Nous, on pense que l'abbé Pierre, c'était combattre la misère. C'était le but ultime, le but final. C'était pas le but final. Le but de combattre la misère était de gagner la paix. Et c'est ça le message profond de l'abbé Pierre. Et c'est ça qui m'intéressait dans mon spectacle. Et c'est ça que j'essayais de grossir au maximum. Car tous les combats qu'il a eus dans sa vie, que ça soit résistant, que ça soit dès qu'il est arrivé député au Sénat ou à l'Assemblée nationale, mais à l'époque, ça s'appelait pas comme ça, quand il a créé Emmaüs, le vrai but, évidemment, c'était d'aider ces pauvres personnes. Mais le but ultime, c'était de combattre la guerre, je dirais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il avait en filigrane cette envie absolue de paix. C'était un pacifiste total.
De quelle manière, du coup?
C'est-à-dire que on a bien remarqué, c'est la misère qui est fédérateur. Quand les gens sont désespérés, ils sont capables de tout, jusqu'à se donner la mort pour une cause qu'ils se découvrent même sur le tard. On l'a vu dans quasiment beaucoup de cas de ces kamikazes, etc. Donc du coup, lui, le but, c'était de prendre en main. Il a alerté il y a 30 ans, j'ai des textes que je dis dans mon spectacle, il y a 30 ans, il a dit une phrase qui pour moi est vraiment... Alors là, ça résume tout en deux secondes. Paris est entouré d'une ceinture de bombes qui, tôt ou tard, finira par exploser. C'est-à-dire qu'on laisse pourrir des situations de misère extrême autour de Paris, avec une capitale relativement riche, et à un moment donné, ces gens-là seront tellement désespérés qu'ils viendront se faire sauter, qu'ils viendront obligatoirement par un extrémisme. Il avait vu tout juste.
Il était visionnaire, quoi.
Il était visionnaire, je pense que surtout parce qu'il était, d'une part, visionnaire, certes, par sa foi, mais d'autre part, parce qu'il était sur le terrain.
Comment vous avez réagi, vous, lorsque vous avez découvert cette phrase? Parce que vous l'avez découvert en cherchant, en faisant vos recherches pour ce spectacle.
J'étais complètement bouleversé. C'est-à-dire qu'en plus, moi, ma première lecture, on fait des lectures au théâtre avant de monter le projet, pour trouver des productions, etc. J'ai fait ma première lecture le 20 novembre. C'est-à-dire une semaine après les attentats du Bataclan. Et les gens m'ont dit, mais c'est pas possible, tu l'as inventé, tu l'as écrite, cette phrase. Non, il l'a écrite il y a 30 ans. Il nous a alerté il y a 30 ans. Il a dit aux politiques, il y a 30 ans, faites attention, car si vous laissez pourrir la misère dans nos banlieues, ça va nous sauter à la gueule. Et ça n'a pas raté. Et voilà, pour moi, le combat aujourd'hui est simple. Je pense que la société doit vraiment faire attention. Aujourd'hui, où l'argent a de plus en plus de place chez les riches et de moins en moins de place chez les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches, je pense que ce grand écart, il faut l'arrêter, comme l'avait prédit l'abbé Pierre, et il faut commencer à revenir à un vrai moment de partage. Je dis pas aux riches de tout donner, mais il faut qu'ils commencent à regarder vraiment ce qui se passe. C'est pas en allant taper sur la gueule des gens qu'on va réussir à avoir la paix.
Donc votre spectacle, Nicolas Vitiello, il s'appelle La Voix des Sans-Voix. Donc vous, en montant sur scène, c'est pour rendre hommage à l'abbé, mais c'est aussi pour faire passer un message à la nouvelle génération, ce message.
Tout à fait, c'est ce message précis. Autre tous les messages magnifiques qu'il y a dans ce spectacle, car c'était un homme de parole, il écrivait très bien, c'était un grand orateur, donc c'est magnifique de pouvoir endosser la peau de ce personnage. Mais c'est vrai que le vrai message, c'est ce message absolu de paix pour les nouvelles générations. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à être inspiré de l'abbé Pierre, car il inspire toutes les nouvelles générations. Les graphistes, moi je me balade souvent, enfin dans la rue, je vois très souvent des tags avec le visage très connu de l'abbé Pierre.
C'est vrai, des magnifiques tags, ouais, c'est vrai.
Il inspire énormément la nouvelle génération.
L'abbé Pierre, nous célébrons donc les 10 ans de sa mort cette année. Il reste l'une des plus grandes figures humanistes de l'histoire, hein, en fondant la communauté Emmaüs, communauté qui est présente aujourd'hui dans 37 pays. Il a décidé de consacrer sa vie aux autres et surtout il s'est fait connaître du grand public grâce à cet appel de février 54 sur Radio Luxembourg lors de cet hiver rigoureux. Je vous propose de le réécouter.
Avec plaisir.
Nicolas.
Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée. Cette nuit, à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi, en 3 heures, 2 premiers centres de dépannage viennent de se créer. L'un sous la tente, au pied du Panthéon, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. L'autre à Courbevoie. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime.
Un extrait de l'appel de l'abbé Pierre du 1er février 54, c'était sur Radio Luxembourg, un appel qui a eu un impact phénoménal, incroyable. On dit que c'est du jamais vu dans l'histoire
C'est du jamais vu dans l'histoire, c'est-à-dire que cet homme, c'est ça qui est aussi intéressant dans le montage de mon spectacle, c'est comment un homme sorti de nulle part, prêtre, à une époque où voilà, être prêtre, c'était pas hyper tendance, juste après la guerre, arrive en nulle part, ayant aucun contact, rien, par la force, par sa volonté, par sa révolte contre quelque chose qu'il trouvait injuste, a réussi déjà à bousculer un directeur de radio, parce que c'est pas facile de passer un appel d'ordre privé sur une radio aussi grande que Radio Luxembourg. Donc déjà, il a été assez convaincant pour prendre le micro. Et surtout, le lendemain, faire que des millions de Français ont répondu à cet appel. C'est extraordinaire. La force de ce message, moi j'ai la chair de poule à chaque fois que je l'entends, c'est qu'il a touché le cœur des Français. Et les Français, le lendemain, ont donné des milliers de couvertures, des millions de francs de dons, et la misère a reculé dans les semaines qui ont suivi. Il l'a fait reculer, la misère.
Beaucoup de personnalités ont donné aussi, Charlie Chaplin notamment. Oui. C'est assez incroyable. On dit qu'Emmaüs a même été dépassé par les événements, presque aurait pu être dépassé par les événements.
Je pense que même l'abbé Pierre a été dépassé très souvent dans ses écrits. On voit qu'il est rentré à l'hôpital pour surmenage. Je pense qu'il était complètement dépassé, tout à fait. Et un seul homme ne pouvait pas tenir tout ça. Et il voulait tenir tête systématiquement à cet engagement, mais c'était très difficile. Un seul homme, c'est compliqué. Il y a des milliers de personnes. Et puis, c'est vrai que ça l'a littéralement dépassé.
Alors sur scène, vous revenez sur sa vie, mais comment vous avez choisi? Justement, il a une vie tellement riche, cet abbé. L'abbé Pierre a eu 100 vies en une seule vie. Comment vous avez réussi à créer un spectacle d'une heure et demie sur sa vie?
Ça a été très dur de faire des choix. Ça a été un an d'écriture. Enfin, j'ai écrit le spectacle très rapidement. Et ce qui m'a pris du temps, c'est d'enlever des passages. Voilà, c'était des choix compliqués. Et en fait, je me suis servi de quelque chose qu'il dit au début d'un livre qui s'appelle Testament, où il dit que sa vie a été comme une succession de circonstances exceptionnelles qui, mises bout à bout, ressemblent à une bande dessinée. La jeunesse turbulente d'un bourgeois. Donc c'était un bourgeois, c'est quelqu'un, ça faut le préciser aussi. Il n'y a pas que les gens pauvres qui font des choses bien. C'est un bourgeois.
Il a renoncé à son héritage.
Il a refusé l'argent de la famille. Et il est rentré dans les ordres. Alors c'est vrai qu'il a eu un coup de foudre avec Dieu. Il a vécu pendant quelques années moine. Et ensuite, c'est la guerre qui l'a sorti du couvent et qui l'a amené à combattre. Et lui, très rapidement, a choisi la résistance. Parce qu'il trouvait ça insupportable que des Juifs soient déportés, sans connaître vraiment les conséquences à l'époque, quand on est dans l'action. Donc très vite, il est allé à la frontière suisse et il faisait passer des Juifs en Suisse. Il les aidait à passer, parce que c'est un montagnard, il habitait à Lyon, et c'était un crapahuteur. Et très vite après, pour que cet héritage de la victoire reste, il a décidé d'entrer en politique. Et c'est là qu'il est devenu député. Et en fait, voilà, mon spectacle s'est construit sur cette bande dessinée qu'il, lui, a décidé de décrire. Et je me suis basé par rapport à ça. Et
c'est vrai qu'il aurait pu faire de la politique plutôt que... C'est un choix, non, de sa part?
C'est un choix de sa part parce qu'en fait, il a été très... Il assume avoir été un très mauvais homme politique. Il a toujours dit que l'homme politique au pouvoir devient tout le temps bête et que c'est une obligation quasiment et qu'il doit toujours avoir près de lui la voix des sans-voix. C'est-à-dire que il doit toujours avoir des personnes autour de lui qui le réveillent et qu'il était bien meilleur dans cette espèce d'alerteur à secouer tout le temps les hommes politiques en disant réveillez-vous, il se passe ça, ça, ça et ça. Parce qu'un homme au pouvoir va très vite mettre une hiérarchie sur des positionnements, etc., qui ne sont pas le bon ordre de la logique. L'ordre premier, ça devrait être l'humain. Et l'homme politique, l'humain est souvent placé en dernier.
Il était la voix des sans-voix, l'abbé Pierre. La voix des sans-voix, c'est aussi le nom de votre spectacle qui lui rend hommage, Nicolas Vitiello. Restez avec nous. Dans un instant, on continue de parler de ce spectacle que vous avez mis en place pour rendre hommage à l'abbé Pierre et puis de vos nombreux projets. À tout de suite sur Vivre FM.
Vous écoutez Le Grand Témoin.
Défi du quotidien jusqu'à 13h sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Mon grand témoin sur Vivre FM, Nicolas Vitiello aujourd'hui, qui vient nous présenter ce spectacle hommage à l'abbé Pierre, puisque nous célébrons les 10 ans de sa mort cette année en 2017. Il s'intitule ce spectacle La Voix des Sans-Voix. Et on vous retrouve ce dimanche à la communauté Neuilly-Plaisance. Vous allez le jouer devant des compagnons d'Emmaüs.
Ouais,
c'est un lieu assez symbolique parce que là-bas, c'est la première communauté que l'abbé a créée en 1949.
Exactement, il a loué cette maison en 49 avec son argent de député qu'il gagnait quand il était député. Et il a fondé la première communauté Emmaüs grâce à un SDF qui est venu le voir un jour en disant « voilà, je suis désespéré, je vais me tuer ». Et lui, il a dit « voilà, moi, je peux pas t'aider, je suis en train d'aider des mamans, des bébés ». Mais toi, est-ce que tu veux m'aider? Viens m'aider à aider. C'est le fameux Georges. Et c'est de là qu'a été créé Emmaüs, dans cette maison. Et donc, je vais jouer dans la maison où l'abbé Pierre a... Enfin, la cave de la maison où l'abbé Pierre a créé la communauté Emmaüs.
Dans une cave, vous allez
jouer. Dans une cave, ouais, dans la cave où il stocke en principe J'ai vu là, quand on a visité, ils stockent des appareils de musculation qu'ils revendent. Enfin voilà, c'est resté des chiffonniers.
Hein. J'imagine qu'ils vont. Ça va être une cale qui va être transformée en salle de spectacle.
Oui, ils vont mettre quelques loupiottes et puis un peu de musique du spectacle.
Par contre, du coup, Nicolas, vous risquez de jouer devant des gens, devant des personnes qui ont connu l'abbé Pierre, des compagnons que l'abbé Pierre a aidé à sauver de la rue. Mm. Est-ce que ça met une pression supplémentaire, une angoisse?
Oui, c'est une grosse pression, une grosse angoisse. C'est ce que j'ai toujours eu depuis le début. C'est de. En fait, le jour de ma première à Paris, j'ai déjà eu cette angoisse-là parce que je me suis dit, j'ai mesuré en fait l'ampleur de ce personnage et je ne l'avais pas vraiment capté avant. Comme tout comédien, je rentre corps perdu dans un rôle et puis voilà. Le jour de la première, je me suis dit, ah, il a existé. Et tout ce que je dis est tellement fort. Déjà, moi, sur scène, je le ressens très fortement et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions qui passent. Et je me suis dit, mon Dieu, je peux vraiment là, du coup, pas le trahir. J'ai pas le droit de changer ne serait-ce qu'une virgule de ce qu'il a dit ou de ce qu'il a été. Et ce qui m'a rassuré, c'est que des compagnons sont déjà venus me voir et ils ont reconnu l'abbé Pierre dans ce spectacle. Il y a aussi des gens de sa famille, des neveux et des nièces qui sont venus et qui étaient bluffés avec les larmes aux yeux en se disant « Mais mon Dieu, on a vu notre oncle sur scène, bravo, merci. Voilà, vous avez vraiment bien retranscrit son message. »
Parce que sur scène, vous êtes seul, vous interprétez l'abbé avec la tenue de l'abbé hein, qu'on connaît tous, la cape, le béret, la canne. Ouais. Je vous propose, Nicolas, de faire écouter un extrait à nos auditeurs justement de ce spectacle. Il s'intitule « La voix des sans-voix ».
Pour vaincre le malheur, osons ouvrir les yeux et combattre.
Au-delà de ce que je suis, il reste que j'ai été l'instrument d'une succession de circonstances exceptionnelles qui, mises bout à bout, ressemblent à une bande dessinée. Je crois que ce qui, tout au long de ma vie, m'a certainement coûté le plus est le volontaire renoncement à la tendresse. Eh oui. J'ai été amoureux, moi aussi. Oh, quand j'étais adolescent. Depuis l'enfance, je ressens la douleur du manque de ce que je ne peux pas faire pour ceux qui en ont besoin. J'ai commencé à sauver des juifs avec l'aide de religieuses. Je vais voir les bonnes sœurs et je leur ai dit « Hey, regardez là, j'ai deux types, qu'est-ce que j'en fais ?» Il faut s'efforcer d'être le plus humain possible. Chers amis du MRP, je me présente à l'élection de l'Assemblée constituante pour représenter la Meurthe-et-Moselle. L'homme politique, pour ne pas devenir bête, doit toujours avoir près de lui ce qui l'empêche de dormir, en étant la voix des sans-voix.
Voilà, La Voix des Sans-Voix, c'est le nom de votre spectacle, Nicolas Vitiello. Vous interprétez l'abbé Pierre, vous revenez sur sa vie. On voit que voilà, c'est un monologue, c'est extrêmement fort tous les passages que vous avez choisis.
Voilà, rien que de les entendre, j'ai envie de pleurer. Donc. Non, c'est terrible de m'être imprégné pendant un an de cet homme. M'a changé, ma vie a changé, j'ai une vision différente de la société, de la vie en général, il m'a vraiment bouleversé.
En quoi ça a changé? Qui était Nicolas Vitiello avant de faire cette rencontre? On peut parler de rencontre avec l'abbé Pierre.
C'est une vraie rencontre, oui, tout à fait. J'ai toujours eu une part d'humanisme en moi, j'ai toujours essayé de faire les choses bien et pour le bien commun, mais quand on voit la vie, je dirais, quasi parfaite de cet homme, on se sent tellement petit, j'ai rien fait, j'ai 34 ans et j'ai rien fait. Il a créé Emmaüs quand il avait 37 ans, il a été résistant avant, il a été député avant Emmaüs. Enfin, on se sent forcément petit et on se sent passif de ce qui se passe, alors que lui s'est toujours révolté dès que quelque chose n'allait pas. Et c'est peut-être un peu ça aussi aujourd'hui qui nous manque. La nouvelle génération dont je fais partie n'est peut-être pas assez revendicatrice de messages forts et de bien-être et de paix et de bien-être commun.
Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un, il n'y a personne comme l'abbé Pierre aujourd'hui?
J'ai beau regarder un peu partout, j'ai du mal à le trouver.
Pourtant, on aurait besoin de personnes.
Je rêve d'avoir quelqu'un comme l'abbé Pierre. Je n'ai malheureusement pas les épaules pour. Je pense qu'il faut avoir déjà une foi sans nom, renoncer à sa vie, parce qu'il a vécu que pour les autres. Il n'a quasiment pas vécu pour lui.
Bien qu'il ait été amoureux, c'est ce qu'on entend dans l'extrait de votre spectacle.
C'est ça qui est beau à voir, c'est que c'est un homme de foi, certes, mais ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est qu'il avait une part humaine très forte et qu'il s'est souvent battu contre l'Église. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Église, souvent, s'est un peu fâchée contre lui, parce qu'il était pour le mariage des prêtres, il était pour l'ordination des femmes. C'était un personnage totalement moderne. C'est pour ça qu'il inspire autant les jeunes aujourd'hui, d'ailleurs.
Alors revenons à votre spectacle, Nicolas Vitiello. Vous l'avez mis en scène aussi. Parlez-nous un petit peu de la mise en scène, du décor. Est-ce qu'il y a un décor, voilà, le jeu de lumière, un petit peu l'esthétique?
Mais en fait, j'ai fait le tour de quelques metteurs en scène à Paris et très vite, je me suis rendu compte que j'avais envie d'être seul pour ce spectacle parce que je l'ai vraiment rencontré dans ses écrits, dans ses paroles, dans tout ce que j'ai lu sur lui et tous les reportages que j'ai avalés pendant des heures et des heures. Et au final, tout ce qu'on me proposait ne me convenait pas et je suis parti tout seul sur une mise en scène qui était d'aller vers le plus simple, la simplicité la plus totale, c'est des cartons. J'utilise des cartons qui représentent pour moi d'une part Emmaüs et aussi les clochards, les SDF, la rue. Et ces cartons, en fait, je les module petit à petit et je les transforme justement en la maison de Neuilly-Plaisance. À un moment donné, ça devient l'église, donc ça devient une croix. À un moment donné, ça devient un mur. Ces cartons sont en même temps très poétiques, je trouve, parce que c'est très vite l'imagination part dans le décor et on se retrouve dans l'hiver 54.
Donc vous avez tout fait tout seul, mise en scène.
J'ai tout fait tout seul, ouais. J'ai été aidé par des copains, Mathieu Lecuffec, qui m'a aidé à la mise en scène, qui était mon assistant, Franck Leboeuf, qui m'a aidé à produire ce spectacle, et Denise Petit-Didier, qui m'a prêté son lieu à Paris. Et surtout, Emmaüs International, qui m'a dit oui, parce que c'est des grands fous. Sans lire mon texte, ils m'ont dit oui.
Oui, parce qu'il a fallu quand même demander l'autorisation.
Évidemment, parce que ce sont les héritiers de l'abbé Pierre, c'est Emmaüs International. Et c'est eux qui ont connu l'abbé majoritairement et qui m'ont dit oui, un grand oui, sans fouiller ma vie, en faisant confiance en la Providence. Et j'ai trouvé ça magnifique.
Donc vous le jouez dimanche à Neuilly-Plaisance, dans la communauté, la première qui a été créée par l'abbé Pierre, c'est en région parisienne. Vous l'avez déjà joué à Paris, dans un théâtre.
Le théâtre de nous. Pendant deux mois.
Ça a été facile de vous faire accepter? Ils ont été OK pour la pièce directement ou...
C'est la directrice qui l'a voulu, ouais. Tout de suite, ça lui a parlé. Elle était très admirative de l'abbé Pierre. Ouais.
Et cet été, en Avignon, au festival,
ouais. Au Théâtre du Roi René, à 11h.
D'accord, ça j'imagine que c'est très important pour un comédien d'aller défendre sa pièce là-bas, dans ce festival de renommée mondiale.
Oui, il faut. C'est un spectacle qui doit briller en Avignon et qui, j'espère, marchera en Avignon parce que voilà, c'est vrai qu'il y a un vrai public pour ça et les professionnels aussi sont là, donc il faut que ce spectacle vive le plus longtemps possible car le message doit absolument passer au plus grand nombre de personnes.
Justement, les jeunes qui nous écoutent, qui n'ont pas trop connu l'abbé Pierre ou pour qui ça évoque pas grand-chose, quel message vous pourriez leur dire, Nicolas Vitiello, pour les convaincre de venir vous voir et de vous intéresser à votre spectacle?
Je pense vraiment, tous les jeunes qui sont venus, moi j'ai lu en fait ce spectacle au tout début que je l'avais écrit. Je suis parti le lire dans une association chez une copine à Saint-Martin, dans les Caraïbes. Et c'est une association qui recueille des enfants d'Haïti, etc., sans papier, et qui les aide à s'intégrer et à travailler, à prendre des cours, etc., etc. Et je suis allé le lire là-bas parce que eux, ils savent même pas qu'on peut mourir de froid, par exemple, dans les Caraïbes. C'est inconcevable pour eux. Et je voulais pas que ce spectacle soit misérabiliste et qu'il soit surtout ennuyeux pour les mômes et les jeunes. Et c'est eux les premiers spectateurs de ce spectacle en lecture. Et ils ont été complètement, absorbés par ce personnage. Et ils se sont immédiatement intéressés à la vie de l'abbé Pierre. Et ceux qui étaient en échec scolaire, le lendemain, ont décidé de bien bosser à l'école. Enfin, il a eu un impact incroyable sur ces gamins parce que il est plein d'espoir, il est plein de positifs. Et on nous bastonne tous les jours à la télévision, à la radio, dans les médias, que c'est le bordel, qu'on ne peut pas s'en sortir, que de toute façon, tout est sombre, tout est noir. On va faire au mieux, mais voilà... C'est pas vrai. S'il y a une vraie révolte à un moment donné populaire, s'il y a une vraie envie que ça marche, c'est possible. La preuve, l'abbé Pierre a réussi à quasiment éradiquer la misère à l'époque. Malheureusement, c'est retombé. Mais il suffit juste d'un bon souffle pour que tout redémarre.
Emmaüs est aujourd'hui présent dans 37 pays. Est-ce que c'est un spectacle que vous pourriez adapter, peut-être avec vous ou avec d'autres comédiens, mais dans d'autres pays
Ah, j'adorerais. J'adorerais que ce spectacle part déjà... J'aimerais le faire dans tous les pays francophones, certes, et j'aimerais le donner, l'offrir à des comédiens où se trouve Emmaüs à l'international, bien sûr, et qu'il soit joué dans tous les autres pays, bien évidemment.
Nicolas Vitiello, restez avec nous dans un instant. On continue de parler de ce spectacle La Voix des Sans-Voix que vous jouez à Neuilly-Plaisance ce dimanche à l'occasion des 10 ans de la mort de l'abbé Pierre. Et puis on va revenir aussi sur vos nombreux projets puisque vous n'en manquez pas pour 2017. On parlera notamment de cette pièce que vous jouez à partir de ce soir à la comédie Comartin, Ma belle-mère et moi, 9 mois après. C'est la suite de la pièce que vous aviez déjà jouée à l'époque avec notamment Franck Leboeuf sur scène. À tout à l'heure.
Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Nicolas Vitiello est notre invité aujourd'hui sur Vivre FM, le grand témoin, alors que vous êtes quelqu'un de très occupé, puisque je rappelle qu'à partir de ce soir, vous commencez votre toute nouvelle pièce à la Comédie Comartin. Elle s'intitule « Ma belle-mère et moi, 9 mois après ». C'est la suite de cette pièce que vous aviez jouée pendant 4 ans, qui a connu un grand succès à Paris.
Tout à fait, oui. La bande de copains s'est reformée. Cette fois-ci, on a coécrit avec l'auteur original de ce spectacle, Bruno Druard, et avec Franck, et on a mis en scène comme le 1. Et voilà, c'est là pour le coup, c'est comparé à l'Abbé Pierre, là, c'est... on part dans la comédie très très très
c'est un
très
peu le grand écart avec l'Abbé Pierre, avec cette pièce que vous présentez dimanche, ce sera à Neuilly-Plaisance à l'occasion des 10 ans de la mort de l'Abbé Pierre, mais en même temps c'est le propre d'un comédien de pouvoir se changer de rôle et vous en êtes la preuve. Donc c'est quoi le pitch de cette comédie, Ma belle-mère et moi, 9 mois après?
Mais là en fait, à la fin du 1, Johan, le rôle que j'interprète, avait un enfant avec la belle-mère de Julien, interprété par Franck Leboeuf, pour une histoire complètement loufoque d'héritage. Et là, donc, on est 9 mois après. Donc, la belle-mère est enceinte de ce personnage complètement taré.
De votre personnage, c'est ça ?
Non, personnage, d'accord. Tout à fait. Et Franck Leboeuf et Christine Lemler, eux, attendent leur enfant qui arrive sur scène au bout de 5 minutes de la pièce. Et en fait, Julien va se faire, qui est animateur télé, donc interprété par Franck Leboeuf, va se faire probablement virer parce que la ménagère de moins de 50 ans voulait cet animateur que pour elle. Et du coup, maintenant qu'elle a appris qu'il a un enfant, ben bof, il s'en fout un petit peu, donc il va certainement se faire virer. Et donc, du coup, Johan a un subterfuge, donc le rôle que j'interprète, pour essayer de faire croire que cet enfant n'est pas de lui, mais de Johan, quoi, de lui-même. Et en fait, tout foire, évidemment, il y a plein de quiproquos, il y a plein de. Enfin voilà, il y a tous les éléments d'une très bonne comédie, d'un bon boulevard moderne. Dans cette pièce.
Donc c'est une comédie hein, que vous avez mis en scène vous-même avec Franck Leboeuf.
Tout à fait, ouais, comme le 1. On s'est bien entendu là-dessus et Franck a un esprit très sportif là-dessus et donc il est très à cheval sur plein de choses et moi je suis très voilà, dans les nuages artistiques, dans la folie, dans l'humour, dans les ruptures. Et donc, on s'entend très, très bien sur un plateau.
Cette comédie, c'est à partir de ce soir jusqu'au mois de mai, c'est ça? Jusqu'au 27 mai?
Jusqu'au 27 mai à Paris, à la Comédie Comartin, à 20h, quasiment tous les soirs. Sauf le samedi, on joue à 17h aussi, 17h et 20h. Et ensuite, on part en tournée à partir du mois d'août.
Avec Véronique Demangin,
tout à fait.
Franck Leboeuf et Christine Lemler. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour un comédien, la comédie ou justement interpréter un rôle plus, pas dramatique, mais plus dramatique, comme l'Abbé Pierre?
Interpréter l'Abbé Pierre, c'était dur parce qu'il a existé. Donc, il y a un travail sur la voix, sur le comportement. Je ne pouvais pas faire ce que vraiment je voulais parce qu'il y a un travail de copie, entre guillemets, de ressembler le maximum au vrai personnage, mais les tragédies, c'est malheureusement, je le dis comme beaucoup d'autres personnes, c'est plus facile à jouer une tragédie qu'une comédie. Faire rire, c'est très compliqué, c'est pas donné à tout le monde, et la rupture est mathématique, et c'est fatigant en plus. Mon monologue de l'Abbé Pierre qui dure 1 heure me fatiguait beaucoup moins que ce rôle de comique que j'ai dans Johan, qui est tout le temps sur l'énergie, les changements de voix, les ruptures, la concentration, enfin, c'est très compliqué.
Donc, dont ma belle-mère et moi, vous, 9 mois après, vous jouez le rôle d'un jeune papa, en fait, c'est ça?
C'est ça, ouais, un peu calqué. En fait, j'ai décidé, j'ai un peu forcé les auteurs originaux à écrire sur la grossesse, parce que voilà, j'étais en plein dedans il y a quelques temps. Donc, j'étais très inspiré pour écrire des bons dialogues.
Vous venez d'être papa, c'est ça?
Exactement.
Qu'est-ce que ça change, cette paternité chez un homme? C'est votre premier garçon,
ouais.
Premier enfant?
Premier enfant, premier garçon, évidemment, ça change beaucoup de choses. En plus, il est arrivé quand je jouais l'Abbé Pierre. Donc il y a eu beaucoup de chamboulements dans ma tête.
Vous ne l'avez pas appelé Pierre?
Non, je l'ai appelé Gabin.
D'accord.
Pas par rapport au comédien. Mais du coup, oui, ça change. On pense beaucoup moins à soi. Et du coup, bah, l'avenir se base sur lui et plus sur soi.
Alors, comme on est un petit peu dans le personnel, on va revenir un petit peu sur votre parcours, Nicolas. Depuis quand vous avez cette envie de devenir comédien? C'est un rêve d'enfant?
Ouais, depuis tout petit. En fait, moi, j'étais à l'école, j'étais pas forcément le plus aimé. J'étais le premier de la classe, un peu bouboule, pas très beau, pas trop d'argent. Enfin voilà, donc rien pour plaire. Et j'avais un truc qui plaisait, c'était mon humour. Donc très vite, je suis devenu le bon camarade qui faisait rire les copains. Et de là, j'ai commencé à prendre des cours, à monter ma compagnie, à faire des sketchs, à travailler à la radio du Sud. Enfin, je viens de Toulon, moi. Et les planches m'ont toujours hyper attiré. C'est le théâtre par-dessus tout qui m'attire.
D'accord. Donc, même à, parce que faut dire que le grand public vous a découvert chanteur.
C'est vrai.
C'est
une erreur de parcours.
Non, il n'y a pas d'erreur. C'est une erreur pour vous ?
Non, ce n'était pas une erreur, mais je ne pensais pas que j'allais être pris dans le groupe, en fait, quand j'ai passé le casting. Donc, j'étais dans le Sud, je galérais comme tous les comédiens du Sud. Les comédiens de province galèrent plus que les comédiens parisiens, il faut le dire, parce qu'on a très peu de tournages, on n'a pas beaucoup de théâtre en province. Et du coup, j'ai fait Popstar parce que je prenais des cours de chant pour améliorer ma voix sur scène, au théâtre, tout simplement. Et puis, j'ai été pris.
Donc, voilà, c'était en 2002, vous faisiez partie du groupe Watford, mais ça a pas mal marché quand même. Plus d'un million de disques vendus, c'était une sacrée expérience. Ouais. Et ce qui est surtout un... ce qu'il faut souligner, c'est que vous avez réussi à convertir l'essai, à reprendre vos envies et à devenir comédien. C'est pas donné à tout le monde. Ça peut être compliqué d'avoir cette image justement pour la suite.
C'est-à-dire qu'il a fallu que je travaille 10 fois plus qu'un comédien normal. Je dois prouver plus que je joue bien qu'un comédien qui aurait le même talent que moi. Parce que moi,
ouais,
j'aurais toujours l'étiquette.
Cette étiquette aurait pu vous...
Oh là, bah, elle me met des bâtons dans les roues. La première pièce que j'ai jouée à Paris, c'était Love, Valeur, Compassion à la Porte Saint-Martin. Je me souviens que les metteurs en scène ne voulaient pas me voir. Je sortais de Popstar 2 ans auparavant. Ils ne voulaient pas me voir. C'est pas un comédien, c'est un chanteur. Mais non, j'ai une formation de comédien à la base. Donc, non, ça m'a beaucoup desservi.
Eh bien, Nicolas Vitiello, aujourd'hui, joue l'Abbé Pierre. Hein, on va revenir.
Ouais.
L'Abbé Pierre, donc c'est dimanche à Neuilly-Plaisance pour les 10 ans de sa mort. Une grande manifestation est organisée toute la journée. Tout le monde est le bienvenu. Nos auditeurs peuvent y aller aussi s'ils le souhaitent.
Il y a un événement en Place de la République pour ceux qui ont peur d'aller en banlieue, à Place de la République. Et il y a un événement dans la maison de l'Abbé Pierre à Neuilly-Plaisance. Et là, ça va être très, très convivial parce qu'il y a tous les compagnons. Et puis, il n'y a pas que mon spectacle, il y a tout plein d'autres spectacles, il y a un concert, il y a un buffet, enfin voilà, ça va être un vrai grand moment de partage.
Ça va être très sympa. Alors votre spectacle, il s'intitule La Voix des Sans-Voix et je vous propose d'en écouter un deuxième extrait.
C'est dans cette maison que je fonde cet été de 1949 la première communauté Emmaüs. Georges, viens m'aider à aider. Des femmes et des bébés meurent de froid. Et tout le monde s'en fout! Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit. Je vous demande à tous d'entrer à votre tour dans la belle guerre. La guerre contre la misère et contre l'injustice. Et parce que nous avons le devoir de vouloir être heureux, nous sommes aimés et nous sommes capables.
Voilà un extrait de votre spectacle, Nicolas Vitiello, La Voix des Sans-Voix. Vous donnez de la voix, justement, sur scène. Hein. J'ai pu voir plusieurs extraits, ça donne même des frissons. Il hurlait comme ça, l'Abbé Pierre ?
Ouais, il s'énervait. Enfin, il suffit de regarder, de taper l'Abbé Pierre sur YouTube et vous allez voir. Il ne pouvait pas passer plus de 3 secondes sans gueuler. Donc, il s'énervait très vite. Quand il parlait de l'injustice et de la misère, c'était plus fort que lui. Il s'emportait très, très vite. Et évidemment, je m'en suis énormément inspiré.
Ouais, parce que vous avez voulu retranscrire sa personnalité sur scène.
Complètement, complètement. Puis ça, il avait un français parfait. C'est ça qui était, moi, qui parfois a tendance à couper les mots, qui vient du Sud avec mon accent. Il avait un français, une diction parfaite. Donc ça, il fallait vraiment que je sois à cheval là-dessus et c'était un gros travail pour moi.
On vous a fait des retours des gens qui l'ont connu
Oui, j'ai eu des retours. Moi, ce qui m'a le plus fait plaisir et en même temps ému, c'est sa famille, c'est ses neveux et nièces qui l'ont vraiment, du coup, énormément côtoyé. Et aussi l'ancien président d'Emmaüs International, qui a travaillé pendant 20 ans avec lui, et l'ancienne archiviste aussi d'Emmaüs International, qui vient d'aller à la retraite après 30 années de dur et loyaux service au sein d'Emmaüs. Et elle a travaillé 20 ans aux côtés de l'Abbé Pierre. Et c'est elle qui m'a corrigé mon texte, qui m'a donné des détails, des erreurs, parce qu'elle avait vraiment... c'est une archiviste, donc elle connaissait vraiment tout par cœur, au détail près. Et elle était complètement bouleversée de ce spectacle, et ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a rechargé mes batteries, évidemment.
Du coup, vous avez dit que vous avez bien fait de faire spectacle.
Oui, je suis très heureux.
Certains vous ont... n'y ont pas cru peut-être au départ.
Oh, bah personne. Si. Tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Enfin, en fait, le problème, c'est que je me suis mis une deuxième étiquette. Comme je marche au boulevard depuis plus de 6 ans maintenant, je fais des comédies qui fonctionnent plutôt bien et qui font de belles tournées. Tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas t'enterrer avec le vieux papy Abbé Pierre? C'est pas sexy, qu'est-ce que tu fais? Et non, voilà, je regrette absolument pas. Je savais très bien ce que je faisais. Et c'est pas terminé. Il y a Neuilly Plaisance et je vais jouer dans quelques communautés pour moi, mon plaisir personnel et aussi pour aider Emmaüs. Et il y aura le Festival d'Avignon. Et j'espère que, comme je vous l'ai dit, que ce spectacle ira très très loin parce que nous avons le devoir de vouloir être heureux et ce spectacle en fait partie, le résume bien.
On sent que c'est un projet, Nicolas, qui vous tient vraiment à cœur, presque viscéral, quoi. C'est...
Complètement, j'ai joué gratuitement, je le fais pas pour gagner ma vie, il est complètement à côté de mon travail habituel. Je me suis jeté à corps perdu dans ce... Il le dit, de toute façon, l'abbé Pierre le dit. Hein. Il dit, soit on ferme les yeux et on regarde ce qui se passe, et puis voilà, on essaie de vivre avec sa dépression, comme beaucoup de monde. Soit on y met le petit doigt, et alors là, on est foutu parce qu'on n'en sort plus. Et je crois que malheureusement, j'y ai mis le petit doigt, et j'ai même, ça y est, j'ai la main, le bras, et je suis en train de... Je le lâcherai jamais, parce que j'adore ce spectacle, et j'adore ce message, et j'ai eu maintenant une vraie relation amicale et d'amour avec Emmaüs, et je les abandonnerai jamais.
Et comme vous venez d'être papa aussi, j'imagine que c'est une façon de passer un message pour les générations futures, parce qu'on a tous peur de voir l'évolution du monde, etc. J'imagine que ça a aussi un sens pour vous.
C'est exactement ça. Moi, je termine mon spectacle par un message qu'il a donné à une conférence à des étudiants, où il dit, voilà, il y a deux chemins qui est en train de se mettre devant vous. Le premier chemin, c'est celui qui est en train de, malheureusement, prendre le dessus. C'est si vous partez dans la vie en disant moi, ma carrière, ma fortune, bon, les autres, je suis pas méchant, je leur veux pas de mal, mais je m'en fiche, mais moi. Mais vous êtes à plaindre d'avoir 20 ans aujourd'hui, vous êtes même foutu parce que vous allez droit dans le mur. En revanche, si vous avez l'ambition d'être heureux, et vous avez, c'est pour ça que j'ai mis en sous-titre de mon spectacle, nous avons le devoir d'être heureux. Être heureux n'est pas qu'un droit, c'est surtout un devoir. C'est une bataille au quotidien. C'est tous les jours, il faut se battre pour le bonheur et pas le bonheur que personnel. Pour avoir un bonheur personnel, le bonheur de tous doit primer également. Donc c'est ce message-là que je veux donner à la nouvelle génération.
Nicolas Vitiello, merci beaucoup d'être venu sur l'antenne de Vivre FM. Alors je rappelle donc votre spectacle La Voix des Sans Voix se joue à Neuilly-Plaisance ce dimanche à l'occasion de l'anniversaire de la mort de l'abbé Pierre. Tout le monde est convié. Spectacle que vous jouerez cet été en Avignon. Et puis le public peut venir vous voir aussi à la comédie Comartin à partir de ce soir jusqu'au 27 mai dans cette fabuleuse comédie Ma belle-mère et moi, 9 mois après, avec Véronique Demonge, Franck Leboeuf, Christine Lemler et vous-même Nicolas Vitiello.
Voilà, après cette belle semaine chargée, peut-être que lundi vous viendrez me voir à l'hôpital Sainte-Anne.
Voilà, non, on n'espère pas. Merci beaucoup Nicolas, à très bientôt.
Vivre FM, podcast.